Donc nous poursuivons notre colloque et maintenant nous allons prospecter le domaine de la mémoire et autour bien sûr de l'art. Les deux collègues qui vont intervenir travaillent sur des terrains, je dirais, ou sur des univers apparemment différents, mais vous allez voir sans doute qu'il y a quelques point commun entre les deux. D'une part, je crois que ça concerne, dans leur propos, l'histoire contemporaine, en ce que cette histoire contemporaine, d'une part, elle n'est pas uniquement réservée au monde européen, mais qu'elle intègre ce qui fut l'empire colonial, et que cette histoire coloniale fut une histoire extrêmement violente. Violente bien sûr en Europe, mais violente aussi en Afrique, et en particulier, et donc Bogumil Gjadziewicz en parlera bien sûr mieux que moi, de cet fameux univers du Congo qui fut ce qui fut appelé par l'écrivain célèbre Joseph Conrad le cœur des ténèbres. Donc on va voir des échos, des résonances entre les deux. Sauf que, d'un côté, Annette Vivorka, qui est directrice de recherche au CNRS et qui, en même temps, joue un rôle majeur au sein de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur la Shoah, et en particulier sur la Shoah, mais pas seulement, et qu'elle s'interroge maintenant sur la question de l'écriture de l'histoire, de cette histoire. Comment on écrit l'histoire, disait Paul Venn, et donc sur ce qui fait que l'histoire n'est pas seulement une histoire qui s'appuie sur des faits, mais qu'il y a une part de création dans l'histoire, et que, mais c'est une histoire, comme elle le dit de façon amusante, en dépit du sujet dont elle traite souvent, une histoire oulipienne, c'est-à-dire une histoire sous contrainte, hein, avec des contraintes comme les oulipiens faisaient, ils se donnaient quelques éléments à eux-mêmes pour rendre compte, pour faire leurs œuvres. Et du côté de Bogumil Gjadziewicz, qui est professeur émérite à l'Université de Laval, au Canada, il est historien aussi. Il connaît bien l'histoire de l'Afrique contemporaine, et en particulier de l'espace congolais. Mais lui, il va s'interroger, et Dieu sait s'il a joué un rôle dans la connaissance de la peinture congolaise, il va nous faire comprendre en quoi les peintres congolais ou les arts plastiques congolais sont des artistes eux-mêmes, non pas historiens, mais mémorialistes en quelque sorte, et qui, à travers leurs œuvres, on peut comprendre cette histoire du Congo, une histoire pour le moins tumultueuse. On a là, encore une fois, des exposés, des conférences qui vont se faire écho, je crois, à travers ces expériences de l'histoire, qui sont des expériences tout à la fois d'écriture, de représentation et en même temps des expériences redoutablement dramatiques. Voilà, donc je donne la parole, je ne sais pas quel est le sens. Est-ce que je respecte l'ordre alphabétique? Ou Annette, tu veux parler, vous voulez?
Moi, ça m'est égal. Hein,
Annette, allons-y. Annette, donc vous avez 25 minutes.
Bon. Je ne devrais pas dépasser.
Voilà. Et Bogumil Gjadziewicz aura 25 minutes aussi.
En fait, j'ai voulu rester dans cette thématique de la création et m'est venue à l'idée de penser qu'écrire de l'histoire était effectivement une création oulipienne. Alors, pour nos collègues étrangers, je vais quand même rappeler ce que c'est que l'oulipo, telle qu'elle est définie par deux écrivains, Jacques Roubaud, mathématicien et écrivain, et Marcel Benabou, ce dernier étant aussi un grand historien, spécialiste du monde romain. Alors, ils répondent à cette question. Oulipo, qu'est ceci, qu'est cela? Qu'est ce ou, qu'est ce lit, qu'est ce pot? Ou, c'est ouvrir. un atelier pour fabriquer quoi ? De la lie. Lie, c'est la littérature. Ce qu'on lit et ce que l'on rature. Quelle sorte de lie ? La lipo. Po signifie potentiel. De la littérature en quantité illimitée, potentiellement productible jusqu'à la fin des temps, en quantité énorme, infinie pour toute fin pratique. Faire avancer la lipo, la littérature potentielle, écrivent-ils, c'est inventer des contraintes. La littérature oulipienne est donc une littérature sous contrainte. Et un auteur, et j'aime assez leur définition d'un auteur parce que je pense que c'est une définition qui s'applique à beaucoup des personnes qu'on a entendues depuis hier soir, c'est un rat qui construit lui-même le labyrinthe dont il se propose de sortir. Peut-on donc parler d'histoire oulipienne ou plutôt d'ouispo, d'ouvroir d'histoire potentielle? Alors on va s'arrêter quelques secondes sur ce thème étrange d'ouvroir. D'ailleurs, il est étrange aussi pour Jacques Roubaud ou Marcel Benabour, puisqu'il propose immédiatement un synonyme qui est celui d'atelier. Le terme d'atelier nous est familier à tous. L'atelier de l'histoire, c'était le titre donné par François Furet à un recueil d'articles sur ce qu'est l'histoire. Et c'était un peu le pendant de l'apologie pour l'histoire ou le métier d'historien de Marc Bloch. Ce dernier insistait à longueur de page sur le caractère artisanal de notre métier. Il se qualifiait lui-même d'artisan vieilli dans le métier, ce que je suis peut-être. Mais ouvroir, c'est un terme qui est un peu désuet et qui n'est jamais utilisé par les historiens dont la communauté, je mets des guillemets, fut longtemps exclusivement mâle et qui reste très largement dans ces institutions dominées par les hommes. Non que l'oulipo fut particulièrement féminisé. Il me semble, si je regarde la liste de ceux qui sont les plus proéminents, je pense bien évidemment à Georges Perec, il me semble que les femmes y sont pratiquement absentes. Or l'ouvroir, terme désormais désuet, était le lieu où les communautés de femmes, notamment dans les couvents, se rassemblaient pour effectuer les travaux d'aiguille, de couture ou de tricot, travaux féminins par excellence, ce que n'est pas le travail historique. Quant aux pots, aux potentialités de l'histoire, elles sont finalement infinies dans les objets qu'elle choisit d'étudier, comme dans la mise en récit de ses découvertes, le fameux narrative, pour utiliser un terme en usage chez les anglo-saxons. Ispo, histoire potentielle, est donc pléonastique, puisque l'histoire est par définition potentialité infinie, infinie mais contrainte. À moins de sacrifier, comme plaide deux historiens, Quentin Deluermoz et Pierre Singer-Avelou, dans un ouvrage qui vient de paraître, à une histoire des possibles, c'est-à-dire à une histoire contrefactuelle, qu'on appelle encore histoire virtuelle, spéculative, conjecturale, hypothétique, parafactuelle et encore bien d'autres termes. Mais puisque j'ai défini le travail de l'historien comme étant une pratique artisanale, et que je n'ai jamais sacrifié dans mon propre atelier au genre de l'histoire contrefactuelle qui est surtout très vivant outre-Manche et outre-Atlantique, c'est donc aux contraintes de l'histoire et de l'historien que je souhaite réfléchir. Car l'histoire est une discipline, tout comme les couvents dans lesquels se trouvaient les ouvroirs, une discipline qui obéit à des règles. Donc une partie des contraintes sont imposées par la discipline, mais d'autres contraintes sont liées au désir conscient ou inconscient de se conformer aux attentes. Ces attentes, ça peut être celles du milieu, hein, les attentes du milieu universitaire, ça peut être les attentes idéologiques, ça peut être les attentes politiques. Mais il y a aussi un autre ordre de contraintes qui sont plus précisément oulipiennes, qui sont les contraintes que l'historien se choisit lui-même dans son travail. Quelques mots d'abord sur les contraintes de la discipline. Une bibliothèque existe sur ce qu'est le métier d'historien. Tout à l'heure, c'est vous qui citiez Paul Venn, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres. Parmi les contraintes à laquelle nous adhérons tous, il y a l'humble soumission à la vérité. C'est tout à la fois une contrainte et une éthique. Marc Bloch écrivait « Je tiens le mensonge pour la pire lèpre de l'âme ». Ces contraintes, cette soumission à la vérité, brident notre imagination, brident parfois nos désirs que l'histoire soit comme on souhaiterait qu'elle soit, et elles canalisent notre imagination. Elles demandent souvent de s'arracher à nos croyances les plus profondes, elles demandent à traquer chez soi-même toute trace d'idéologie dans l'examen notamment de ces passés qui ont modelé largement le monde du XXe siècle et qui ont constitué mes objets d'étude, le communisme et le nazisme. Elle impose de ne jamais prendre pour argent comptant la parole des acteurs de cette histoire, ce qui est très important pour l'histoire contemporaine, ce qui ne veut pas dire non plus que cette parole est sans valeur ou qu'il ne faut pas l'écouter. Je vais prendre un exemple dans une étude sur la résistance des juifs communistes. Pour nos collègues étrangers, il faut dire que ces juifs communistes qui ont subi en tant que résistants des arrestations considérables, plus de 200 d'entre eux ont été arrêtés par le fait de la police de l'État français, un petit nombre d'entre eux ont fait l'objet d'un procès spectacle, ceux qui avaient pratiqué la lutte armée. Ils ont été fusillés, et au moment où ils étaient fusillés, en février 1944, les nazis ont apposé sur les murs de Paris une affiche rouge, avec en grandes lettres noires, les libérateurs, la libération par l'armée du crime. Et en médaillon, les photos de 10 d'entre ces hommes qui seront fusillés, 7 juifs étrangers, un italien communiste, un espagnol rouge, c'est comme ça qu'on les appelait, un arménien. Cette affiche rouge est tombée dans l'oubli jusqu'au moment où un grand poète, communiste et grand poète, Louis Aragon, écrit un poème qu'il intitule « Strophe pour se souvenir ». C'est donc ces strophes pour se souvenir qui vont faire rentrer un peu dans la mémoire collective cette résistance. J'en cite quelques vers. « Vous n'aviez réclamé ni gloire ni les larmes, ni la prière aux agonisants. 11 ans que cela passe vite, 11 ans, vous étiez simplement servi de vos armes. » La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez nos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe, hirsutes, menaçants, l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer, vos noms sont difficiles, ils cherchaient un effet de peur sur les passants. J'allais dire ce que vous dites, qu'en 1959, Léo Ferré, grand chanteur, met ce poème en musique. Ce qui nous amène, parce qu'on parlait de la musique tout à l'heure, à réfléchir sur ce qui rentre dans la culture commune. Ce ne sont pas nos pauvres travaux d'historiens dont les tirages et les échos sont limités. Ce n'est même pas la poésie dont les échos sont plus larges, mais c'est la chanson qui est communément partagée, qui rentre dans la culture populaire pour éviter le mot de mémoire. Reste le problème de l'arrestation de ces jeunes gens. Dans leurs écrits, les historiens, en général communistes, traçaient, et c'est constamment repris, le tableau d'une résistance sans peur et sans reproche. sans reproche. Ils avaient, ces jeunes gens, respecté les règles de sécurité, une discipline de fer. Dans le film de 1985, un film qui a suscité une immense polémique et qui a d'ailleurs été interdit de télévision, le réalisateur Moscolevi Bucco, dans ce film, Les terroristes à la retraite, mettait en scène le responsable militaire de cette résistance, Boris Holban. Et Boris Holban étalait devant la caméra un impeccable organigramme qui montrait les groupes de trois partisans, chaque élément du triangle en contact avec trois autres partisans, bien évidemment hermétiques les uns aux autres et obéissant comme un seul homme à la discipline que le Parti communiste, très largement inspiré de Moscou, leur avait imposée. Les arrestations massives, plus de 200, ne pouvaient alors trouver une explication que dans la présence, parmi ces combattants, d'un ou plusieurs traîtres. Et nous sommes exactement, dans une toute petite échelle, dans les procédures des procès de Moscou. S'il y a des problèmes dans l'économie soviétique ou un problème quelconque, le communisme étant par définition infaillible, c'est qu'il y a des traîtres infiltrés. Plusieurs traîtres. Ainsi furent désignés comme seul responsable une jeune fille, Lucienne Goldfarb, qui était blonde, mais qui après la guerre devient rousse dans l'imaginaire, la rouquine. Les rouquines sont des figures de traîtres dans beaucoup de situations. Et d'autant qu'elle a fait après une très grande carrière de prostituée. C'est une histoire fascinante. Et un homme qui a été retrouvé par les FTP et que Holban a probablement liquidé, qui s'appelait Davidovitch. Quand on regarde ce que j'ai fait, les témoignages de ceux qui ont survécu aux arrestations, puis les archives récemment mises au jour, on montre que ces jeunes gens, 16, 17, 18 ans, des très jeunes gens, ne respectaient aucune règle, que c'était des copains bien avant la guerre, qu'ils étaient issus des mêmes milieux, des mêmes quartiers, qu'ils avaient fréquenté les mêmes écoles primaires, qu'ils déjeunaient ensemble et qu'ils formaient aussi, chose éminemment interdite, des couples. Ainsi, par exemple, Rita Kurchan était l'amie d'un autre Sam Radzinski. Sitôt arrêtée et conduite à la préfecture de police, sans avoir été torturée, 17 ans, hein, elle dit tout ce qu'elle savait. Elle fut, elle, déportée, assassinée à Auschwitz. Son compagnon Sam, seul survivant de sa famille, revient. Dans ce groupe, quelqu'un que les aînés ici connaissent bien, Henri Krasucki, puisqu'il fut longtemps le secrétaire général de la CGT, qui lui habitait avec son amie, Paulette Chivka. Cette dernière voyait très souvent la mère d'Henri, Léa Krasucki, elle-même militante, elle-même d'ailleurs arrêtée, et elle promenait la petite sœur Lily, petite sœur handicapée, qui n'a pas été arrêtée, qui a survécu. Lors de leur arrestation, la police a trouvé dans leur chambre, dans leur planque, une masse de documents, notamment les bio, c'est-à-dire les textes que chaque adhérent au Parti communiste doit remplir. Toute une masse de documents. C'est donc l'opiniâtreté et le savoir-faire des inspecteurs des brigades spéciales de la préfecture de police et le non-respect des règles de sécurité de ces très jeunes gens qui suffit à expliquer l'ampleur des arrestations. Ainsi, le travail historique permet d'expliquer un fait du passé en usant de toutes les sources possibles. Elles sont infinies. Et un des talents créatifs d'un historien est parfois d'inventer ses sources ou de les trouver. Il y a des historiens qui, comme les jardiniers, ont la main verte pour trouver les bonnes archives. Le travail de l'historien serait pourtant un pauvre travail s'il se contentait d'expliquer les faits. Par exemple, on pourrait opposer à l'impeccable organigramme de Boris Holban, un non moins impeccable organigramme qui est celui des filatures de la préfecture de police qui joint par des lignes toutes les gens une fois qu'ils ont été repérés, mais ça ne serait pas non plus de l'histoire. Car l'histoire est une science humaine, elle appartient aux humanités et elle a besoin que l'on mette en récit ce que l'on trouve et elle a aussi besoin, je pense, qu'il y ait une empathie pour comprendre les hommes du passé et une empathie pour raconter l'histoire de ces très jeunes gens. Et elle a besoin aussi de rendre sensible au lecteur ce qu'a été la période. Car je pense que nous ne devons pas simplement nous adresser à nos pères, nous devons nous adresser aussi à un public. La narration en histoire, le récit, doit donc se détacher d'une platitude qui est bien trop souvent le lot des travaux universitaires. Cet impératif d'atteindre la vérité, de s'arracher à soi-même, y compris à ses croyances, ne fait pas disparaître pourtant le « je » de l'historien. Et c'est dans la construction de son récit et dans le style que l'on retrouve le « je ». Aujourd'hui, en France, peut-être ailleurs, mais je lis moins les collègues étrangers, à l'heure des individualités triomphantes, certains historiens ont choisi de se mettre en scène, souhaitant que leurs lecteurs pénètrent avec eux dans leur atelier et souhaitant leur montrer la façon dont ils écrivent l'histoire. Un peu comme dans certains restaurants où la cuisine est ouverte et où nous assistons à la préparation de notre repas. Je ne pense pas que ce soit indispensable. Le style du grand cuisinier ne se lit pas seulement dans le fait que l'on peut voir comment il fait la cuisine. Son style se lit dans ses plats. Et je pense que celui de l'historien se lit dans son style, dans sa capacité de créer, de recréer un fragment du passé des hommes qui ont vécu avant nous. Et c'est là que se trouve peut-être la contrainte ou les contraintes librement assumées qui est la source de notre liberté. Dans deux de mes derniers ouvrages, j'ai choisi de raconter l'histoire par le biais d'un couple. Le couple offre l'avantage de conduire le récit avec deux points de vue. Un de ces couples était formé par un photographe français, Éric Schwab, qui, sans qu'elle lui soit créditée, a pris à l'ouverture des camps de concentration nazis les photos que tous en France et à l'étranger connaissent, qui sont devenues réellement des icônes. Et cet homme, un peu comme Thelma et Louise, partagea sa Jeep avec un journaliste américain, journaliste écrivain juif américain, Meyer Levin. Schwab était mandaté par l'agence France Presse, il s'intéressait aux Français. Meyer Levin était obsédé par le sort des Juifs et en suivant leur périple en Allemagne, on pouvait essayer de voir ce qu'ils avaient vu par l'œil de la caméra de Schwab et de comprendre ce qu'ils avaient compris, l'œil et la plume. C'était aussi une contrainte dans la narration. Autre contrainte, oh là là, je pensais que j'avais fait... Alors, je vais très vite sur l'autre contrainte, le couple, qui est celui de Maurice et Jeannette. Prendre un couple du Parti communiste français, donc je n'expliquerai pas l'importance de Thorez dans le Parti communiste français, ça permet de tenir ensemble le féminin et le masculin. Et ça permet aussi d'essayer d'entrer dans l'intimité, ce qui est très difficile, d'un couple de communistes. Je commence cette étude qui a 700 pages par un fantasme et je la termine par un rêve. Le fantasme de Jeannette. Étant dit que j'étais enceinte, lorsque je marchais dans la rue, j'avais l'impression d'avoir Thorez dans mon ventre. C'est un fantasme très curieux puisque les femmes, catégorie à laquelle j'appartiens, n'ont généralement pas le sentiment d'être grosse de l'homme qu'elle aime. Alors je donnais une petite explication, je vous laisse fantasmer. Le rêve maintenant, c'est un rêve...
Jeannette Vermeersch,
oui. Le rêve maintenant, Maurice note dans son journal, le 26 novembre 1963, à la fin de sa vie, qu'il raconte un rêve, et il note aussi qu'il l'a raconté à Jeannette. « J'avais rêvé la nuit que nous discutions tous deux, trois points de suspension, avec Lénine. Le rêveur en est lui-même tout surpris, puisqu'il introduit trois points de suspension avant de livrer le nom de son interlocuteur. Si, comme le pense Freud, le rêve, c'est un peu sommaire ce que je dis, est la réalisation d'un désir, celui est sans détour. Mais je trouve la condensation audacieuse. Ce rêve fut probablement réconfortant, voire euphorisant. Jeannette et Maurice sont seuls, sans les tracas créés par la vie du parti. Ils sont de plein pied avec Lénine et ils peuvent oublier Staline et Khrouchtchev. J'ai donné ces exemples pour montrer comment ont tous les possibles, enfin à peine un tout petit exemple de l'histoire. Mais pour conclure, je voudrais revenir à une autre question de la façon de parler d'ouispo, d'histoire potentielle. On s'en souvient, après la chute du mur, Fukuyama proclama la fin de l'histoire. Il fut mal compris. Mais nous avons vécu des années que, pour ma part, je considère comme des années bénies. 12 années, comme l'histoire en connaît peu, qui font aujourd'hui figure de parenthèse. Elles nous semblent parfois plus éloignées que la guerre de 14-18. Car les tours jumelles ont mis fin à ces 12 ans. Pendant ces 12 années, nous fûmes nombreux à vivre dans l'illusion qu'il n'y avait qu'un seul modèle économique, le libéralisme, bien tempéré par le welfare, un modèle politique, la démocratie, et une seule idéologie, je pense que c'est vraiment une idéologie, les droits de l'homme. C'est dans le même temps le grand boom sur l'enseignement de la Shoah ou de l'Holocauste, qui s'impose comme une nécessité internationale. En 2000 se tient une grande conférence à Stockholm. Chefs d'État et de gouvernement produisent une déclaration commune, on peut la lire sur Internet, et ils créent ce qu'ils appellent la Task Force for Holocaust Education, qui devient en 2013 l'Holocaust, l'International Holocaust Remembers Alliance. Il semblait important que le passage à la démocratie s'accompagne d'un travail d'histoire et de mémoire, que devaient accomplir tous les pays, surtout ce qu'on appelait à l'époque les PECO. Et on est tous surpris de se souvenir qu'il y a eu pendant un temps des pays d'Europe centrale orientale qui aspiraient à entrer dans l'Europe, et c'était dans les années 2000, donc pas à la préhistoire. C'est aussi la naissance de la justice internationale. Le grand procès de Nuremberg avait été un procès sans lendemain. La division en deux blocs interdisait que le Conseil de sécurité de l'ONU s'accorde pour mener devant une justice organisée par les nations les criminels de guerre, ceux qui avaient commis des crimes contre l'humanité ou ceux qui avaient commis des crimes de génocide. Ainsi, on peut comprendre de deux façons une ou ISPO. D'abord, par la liberté que nous avons de choisir nos sujets. J'ai quand même évoqué un grand colloque en hommage à mon frère Michel sur l'histoire de la moustache qui s'est tenue il y a quelques années. Mais encore par le fait que les situations dans lesquelles nous vivons sont des situations pleines de potentialités, que certaines vont s'avérer stériles, alors que d'autres sont grosses d'avenir. Je ne sais si le savoir historique aide à discerner ses potentialités, si l'ouispo est aussi féconde que l'oulipo en littérature, et je laisserai le dernier mot à notre grand aîné Marc Bloch, qui a payé de sa vie son engagement dans l'histoire. L'histoire est par essence science du changement. Elle doit nous permettre de penser le neuf et le surprenant. Ses leçons ne sont point que le passé recommence, que ce qui a été hier sera demain. Merci.
Merci. Merci à Nadia Vorka.